Parce que chaque citoyen a des droits et des devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, patriotisme, civisme, respect de biens publics, redevabilité des autorités et plus encore, nous en parlons dans votre magazine Droits et citoyenneté. Mieux connaître vos droits ou bien les défendre, mieux connaître vos devoirs ou bien les accomplir. Tous les mardis à partir de 9h15 et 20h30. Tous les jeudis à 13h30.
Encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. 30 ans de la Convention relative aux droits de l'enfant. Quel bilan en République démocratique du Congo? Vous savez, la Convention relative aux droits de l'enfant totalise à ces jours 30 ans depuis son adoption en 1989. Pendant ces trois décennies, des progrès significatifs ont été enregistrés par rapport aux droits des enfants à travers le monde d'après l'UNICEF. En République démocratique du Congo, par exemple, le taux de fréquentation de l'école primaire est passé de 56% en 1990 à 78% en 2018. Cependant, il reste encore beaucoup à faire car de nombreux enfants parmi les plus démunis n'ont pas accès à l'éducation, à la santé et à certains autres droits. En RDC, quel bilan peut-on dresser des 30 ans de l'adoption de la Convention des droits de l'enfant? On en parle dans cette émission avec M. Poncien Tshibamba. Bonjour.
Bonjour Jolie.
Vous êtes coordonnateur du réseau des encadreurs pour l'initiation à la participation des enfants. Nous avons également dans ces studios Carmel Ndomba qui est encadreur des enfants au réseau des encadreurs pour l'initiation au RIP. C'est ça? C'est comme ça que vous les dites en...
C'est ça.
En sigle, Carmel, bonjour.
Bonjour.
Nous avons également dans ces studios Joël Kibouchi, encadreur des enfants au RIP. Bonjour.
Bonjour.
Bien, alors je commence avec vous, M. Poncien Tshibamba. 30 ans de la Convention relative aux droits de l'enfant. Quel bilan nous pouvons dresser en République démocratique du Congo par rapport à cela?
Bon, d'abord, il faut noter que c'est la prise de conscience par rapport aux droits de l'enfant ne date pas de 1989. Elle remonte un peu plus loin, autour des années 1923. Les quelques personnes de la société civile ont pris conscience de la fragilité de l'enfant, de sa vulnérabilité, notamment au moment des conflits et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que le cheminement nous a conduit jusqu'à une proposition faite par le gouvernement polonais en 1979 et examinée par les Nations Unies pendant 10 ans. Depuis, notre pays a adapté sa législation. Plusieurs textes ont connu des améliorations pour tenir compte de cette situation de l'enfant. Et par exemple, on peut noter que nous avons maintenant une loi portant protection de l'enfant, qui est la résultante de notre adhésion à la Convention et la ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant, et qui a en son sein beaucoup d'innovations, notamment la répression des indexations des enfants dits sorciers. Mmh. Avant, c'était facile. Maintenant, oui. Dès que vous indexez un enfant d'être sorcier, la loi prévoit que vous êtes passible de peine. Les fiançailles et mariages d'enfants sont interdits. Ça, ce sont des conséquences de notre adhésion à la Convention. Et donc, globalement,
mais les mariages précoces, il y en a quand même, hein, dans...
Oui,
en RDC.
Ce sont des manquements à la loi qui doivent être punis. Qui doivent être punis. Mmh. Et la loi doit être appliquée. La loi interdit les fiançailles et le mariage d'enfants.
Oui.
Donc, globalement, le bilan est positif. Mais, comme vous l'avez dit dans l'entame, il y a encore beaucoup à faire.
Qu'est-ce qu'il reste à faire, par exemple?
Bon, il est évident que, quand vous regardez les chiffres, on vous indique, par exemple, que, selon le mixte de 2018, on vous indique qu'on est passé de 200 décès sur 1000 naissances vivantes avant 5 ans à 70 décès. Donc, on peut bien faire des efforts pour qu'il y ait zéro décès, n'est-ce pas? Ça, c'est sur le plan de la mortalité infantile. On peut également faire des efforts du côté de l'insuffisance pondérale. Vous avez des enfants de moins de 5 ans qui souffrent d'insuffisance pondérale. Presque un quart des enfants en RDC, 1 sur 4, bien sûr, souffrent d'insuffisance pondérale avant 5 ans. Mmh. Donc, des efforts doivent être fournis. Sans compter l'éducation dont vous avez parlé tout à l'heure, l'éducation de base. Il y a, quand on vous dit qu'il y a 22% d'enfants en âge de scolarité qui ne sont pas scolarisés, ça veut dire que c'est des personnes qui sont exclues de
aujourd'hui avec la gratuité de l'enseignement.
On espère que ça va s'améliorer davantage.
Oui.
Et donc c'est tous ces efforts là qu'il faut fournir sur divers plans, pas seulement cela, mais je peux également parler de la participation, ce que nous faisons. C'est, je crois que le parent pauvre, donc on a très peu d'enfants en RDC qui connaissent c'est quoi leur droit à la participation et qui s'impliquent effectivement à la défense de leurs droits.
Je reviens à vous tout à l'heure, Monsieur Poncien. Joël Lakibouche, vous êtes encadreur des enfants au RAIP. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous faites au sein de votre organisation pour et quel type d'encadrement vous apportez aux enfants?
Nous mettons en action plus sur le droit à la participation des enfants en impliquant les enfants dans toutes les questions qui les concernent. Parce qu'il ne faut pas répondre aux questions des enfants sans leur avoir demandé leur avis. Ainsi, en les impliquant, ils nous font connaître, ils nous font savoir leurs besoins, ils nous font savoir ce dont ils manquent. Et comme ça, le gouvernement et les autres partenaires savent très bien orienter leurs actions pour les enfants. Nous accompagnons les enfants dans les activités de plaidoyer au niveau local, à tous les niveaux possibles pour que les droits, non seulement celui de la participation, mais tous les autres droits contenus dans la CDE soient respectés. Je crois que Carmel aussi pourra me compléter.
Alors Carmel, on vous écoute, vous êtes également de la même organisation. La participation des enfants, les enfants doivent participer à quoi exactement?
D'abord, je disais, pour définir la participation dans un premier temps, c'est quoi la participation? La participation, on peut le définir comme une implication volontaire et en connaissance de cause de l'enfant sur tous les sujets le concernant. Les sujets, par exemple, d'éducation, c'est un sujet qui concerne évidemment l'enfant, des sujets de santé publique, des sujets d'environnement, politique même, et tous les sujets qui tournent autour de l'enfant, qui pourraient intéresser l'enfant. Technologie, sciences, recherche, ainsi de suite.
Par exemple, par rapport à l'éducation, comment le faire participer? Comment faire participer les enfants?
Alors, par rapport à l'éducation, il y a d'abord au niveau familial. Par exemple, dans les choix des filières d'orientation, il faudrait quand même demander l'avis de l'enfant, entendre ce qu'il a à dire comme opinion, et non pas lui imposer comme ça s'est fait très souvent dans certaines familles. Au-delà de la famille, il y a bien entendu, lorsqu'on planifie la politique éducationnelle au niveau national ou provincial, bien entendu, il faut entendre l'avis de l'enfant. On ne peut pas élaborer une action qui vise à répondre à un besoin de l'enfant sans entendre le bénéficiaire, sans entendre ce que l'enfant veut vraiment sur la question de l'éducation.
Oui. Alors, d'après vous, quels sont les défis qui restent à relever par rapport aux droits de l'enfant dans notre pays?
Alors, les défis, il y en a plusieurs. D'abord, par rapport au secteur de l'éducation. On a tout à l'heure parlé de la gratuité de l'enseignement qui, certainement, va augmenter le taux d'accès à l'école primaire, notamment.
Bien qu'il y ait encore quelques couacs à gauche, à droite.
Bien qu'il y ait encore des couacs, bien entendu, il faut quand même le souligner. Mais il y a la notion de la qualité qui n'est pas encore assurée. On remarque très souvent qu'un élève à l'époque, une élève de 6e pouvait savoir lire et écrire correctement, mais aujourd'hui, on ne compte plus le nombre de bêtises qu'on entend des finalistes qui ne savent même pas formuler correctement des phrases en français.
Oui.
Donc la qualité d'éducation, c'est quelque chose qu'il faut améliorer puisqu'elle ne cesse de se détériorer depuis plusieurs années. Il y a également la notion de la question de l'insuffisance pondérale. Les chiffres sur les rapports des OMD montrent que il y a eu une évolution depuis 1990 que de 5%. Donc en 1990, le taux d'enfants de moins de 5 ans qui souffraient d'insuffisance pondérale était autour de 28%.
À cause de la malnutrition?
Non, il y a la malnutrition d'un côté, mais il y a d'autres facteurs également. C'était à 28% en 1990 et nous sommes arrivés à 23% en 2018. Donc une évolution de 5% en 30 ans, ce qui est quand même très faible. Très mitigé comme évolution. Donc c'est un secteur sur lequel on doit énormément travailler.
Bien, Monsieur Poncien, quels sont les autres secteurs dans lesquels il faut s'investir davantage pour permettre à tous les enfants congolais de bénéficier de leurs droits?
Moi, je m'appuie surtout sur la participation de l'enfant dans la mesure où l'avantage de la participation, c'est que c'est un droit qui a un caractère transversal. Lorsque vous impliquez un enfant, il a la possibilité de défendre tous ses autres droits, alors que l'inverse n'est pas toujours
admis. Quels sont les moyens par lesquels on peut impliquer un enfant?
Voilà. La loi portant protection de l'enfant que j'ai citée tout à l'heure prévoit des structures de participation à tous les niveaux, du niveau local jusqu'au niveau national. Mmh. Et donc, il est prévu, selon l'arrêté interministériel qui a été signé l'année dernière par les ministres du Genre, Famille, Enfants et celui de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel de l'époque, qu'il soit mis en place des structures de participation des enfants sur l'ensemble du territoire.
Quelles sont ces structures ?
On appelle ça des comités d'enfants au niveau provincial et local, mmh. ainsi que le Parlement d'enfants au niveau national. Et donc, il faut qu'un effort soit fourni pour que ces structures participent, ces structures soient mises en place et que les autorités dotent les moyens qu'il faut. La loi prévoit que le siège de ces institutions se confonde avec le siège des assemblées délibérantes au niveau provincial tout comme au niveau national.
Est-ce qu'on en a déjà dans nos pays ?
L'expérience pilote appuyée par l'UNICEF a permis en 2016 d'en installer dans les deux provinces de Kinshasa, la ville province de Kinshasa et du Haut-Katanga. On vient d'essayer de renouveler ces comités dans cinq villes, à savoir Kinshasa, Goma, Kananga, Lubumbashi et Mbandaka, si je ne m'abuse. Ce sont les cinq villes dans lesquelles on a déjà installé les comités. Ce sont des canaux par lesquels on peut faire passer des messages. Et
cinq sur les 26 provinces. Imaginez-vous. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire.
Donc vous comprenez qu'il y a énormément de choses à faire. Et donc ces structures permettent d'avoir des vrais représentants des enfants parce que c'est par un processus démocratique et les enfants sont élus depuis la base jusqu'au niveau supérieur. Et la participation permet aux enfants de jouir de beaucoup de choses et ça peut aider le pays.
Et ces comités-là, c'est comment, c'est dans une ville ou dans les écoles, comment c'est fait, comment on arrive à élire ces enfants qui font partie de ces comités-là?
La loi prévoit que toute structure qui encadre au minimum 50 enfants peut souscrire à mettre en place un comité au niveau local. Et tout président du comité local, toujours conformément à la loi, est d'office membre de l'assemblée de la ville ou de la province. Et cette assemblée concourt à l'élection d'un comité au niveau urbain. Donc c'est comme ça qu'on procède cheminement. Et donc,
et les parlements, Kinshasa, vous avez dit, on en a que deux à Kinshasa et dans les Hauts-Katanga.
On a des comités. Au niveau provincial, on appelle ça des comités. On aura un parlement au niveau national. Lorsqu'on aura réuni des présidents des comités venant de chaque province.
De chaque province, ils vont former le parlement au niveau national.
Alors,
ça, on n'est pas encore arrivé à
cette étape-là. On n'est pas encore arrivé à cette étape-là parce que faute des moyens, mais aussi faute de pesanteur culturelle. Hein. Nous sommes dans une société où les gens acceptent difficilement la participation des enfants. Ils sont une infime partie de la population, ceux qui donnent la voix aux enfants et ceux qui veulent les entendre. On a eu beaucoup de critiques. Il y en a qui pensent que on veut politiser les enfants parce qu'on les amène à réfléchir sur des questions de société, on les amène à réfléchir sur les questions de l'éducation. On voudrait que l'enfant gobe tout ce que l'adulte a décidé. Et on ne veut
on
pas
dit que les enfants dépendent de leurs parents tant qu'ils ont encore moins de 18 ans, donc ils n'ont pas droit à la parole.
Ben, il est un principe qui dit que le meilleur médecin de tout un chacun, c'est d'abord lui-même. Hein. Moi, je crois en ça. Je pense que les enfants, bien que jeunes, ils sont en mesure de vous dire ce qu'ils pensent de mieux pour eux. Et vous pouvez prendre compte de ce qu'ils donnent comme avis. Et d'ailleurs, ça les aide beaucoup mieux. Ils façonnent leur personnalité s'ils savent qu'autour d'eux, les gens peuvent les écouter et prendre en compte leur opinion.
Joël, vous parlez souvent avec les enfants. Qu'est-ce qu'ils vous disent par rapport à leurs besoins?
Ils ont besoin qu'on mette un accent sur eux, donc qu'on leur donne l'attention, qu'on les écoute surtout, qu'on prenne le temps de savoir leurs besoins, leurs désirs, et qu'ils ne soient pas plus mis à l'écart comme ça se fait, parce que la société n'accepte pas, parfois lorsqu'ils lèvent la main pour parler, on les écarte, et ils ont besoin de faire entendre leur voix, ils ont besoin que les adultes se mettent pour aussi les écouter, pour voir quelles idées, leur contribution au fait qu'ils ont pour faire avancer également les choses dans la société.
Ok, Carmel, quelles sont les choses que les enfants aimeraient voir changer? Quels sont leurs désidératas, leurs besoins? Vous parlez avec eux au quotidien?
Oui, j'ai parlé avec les enfants. C'est quand même assez difficile de parler à la place des enfants. Ça aurait été mieux qu'eux-mêmes aient l'occasion de s'exprimer.
Oui.
Mais ce que je peux dire, c'est que les enfants, d'abord, ils ont besoin que la situation change, parce qu'ils
veulent aller à l'école.
Ils constatent qu'il y a encore trop d'enfants qui ne vont pas à l'école. Il n'y a pas très longtemps, on a mené une enquête sur un questionnement sur les enfants en dehors de l'école. Donc beaucoup d'enfants en dehors de l'école, ce qu'ils veulent, c'est rentrer à l'école. Et donc, les enfants veulent bien entendu que tous leurs amis aient l'école comme eux. Les enfants aimeraient que la situation sanitaire s'améliore, qu'il n'y ait plus d'épidémie de choléra, d'Ebola qui tue des milliers d'enfants. Mmh. Ils aimeraient que la situation sur la malnutrition d'enfants, qu'il n'y ait plus d'enfants souffrant de malnutrition dans un pays qui regorge d'innombrables ressources en termes de terres arables comme les RDC. Mmh. Donc ils désirent en fait que leurs droits soient respectés. En gros, c'est ça.
Mmh. Et que les enfants soient enregistrés aussi à l'état civil, ça
oui,
c'est...
ça aussi, c'est un droit fondamental. Mmh. Mmh. Pour le moment, je crois qu'on est autour de 40% d'enfants de moins de 5 ans qui sont enregistrés à l'état civil, ce qui est un taux encore assez faible. Et je crois que l'un des plaidoyers des enfants, c'était de décréter un moratoire pour permettre à tous les enfants qui n'ont pas d'acte de naissance d'être rattrapés.
Mmh. Mais, il y a des maladies telles que la polio, la rougeole, la malaria qui affectent beaucoup les enfants aussi.
Oui, ce sont quand je parle de situation sanitaire, je vois en fait toutes ces maladies-là,
oui.
Très évitables qui touchent énormément les enfants. Donc c'est un peu ça.
Bien, nous parlons aujourd'hui des 30 ans de la Convention relative aux droits de l'enfant. Quel bilan dressé en République démocratique du Congo? Nous avons déjà 3 auditeurs en ligne. Malonga nous appelle des Ngandamo dans le Maïndombé. Joël Zakisaye Tamagui et Jérémy Mwamba nous appellent des Lumbashi pour participer. Composez les 081-890-6394.
Parité, autonomisation, violence basée sur le genre, la vie en famille, les valeurs familiales et toutes les questions liées au développement de l'homme et de la femme, c'est dans Parité et Famille. Votre émission vous apprend également comment vivre une vie harmonieuse en famille et vous propose des astuces pour gérer les problèmes des couples, relever les défis de l'éducation des enfants et le bien-être familial. Parité et Famille, votre émission qui traite des rapports hommes et femmes dans la société. Tous les mercredis à partir de 9h15 et 20h30, aussi le vendredi à 13h30.
Bien, nous parlons aujourd'hui des 30 ans de la Convention relative aux droits de l'enfant. Quel bilan dressé en République démocratique du Congo par rapport à cela? Malonga, vous êtes à Ngandambo, voilà, dans le Maïndombé. Bonjour.
Oui, bonjour, aujourd'hui, c'est Ngandambo, en face de Bandundouville.
Hein, voilà, Ngandambo, vous êtes Ngandambo. Quelle est votre préoccupation?
Oui, ma préoccupation, pour élaborer un bilan de 30 ans pour les droits de l'enfant, moi, je vais scinder ça en deux parties. Dans les enfants qui vivent dans des grandes villes, là, il y a 80%, puisque les enfants des grandes villes sont bien protégés par ces lois. Ils ont un mot à dire à ses parents. Ils ont aussi les droits de guider et de faire tout ce qu'ils veulent devant les adultes. Mais pour les enfants qui vivent, par exemple, ici en Ngandambo, moi je suis, dans des villages, dans des milieux très reculés de la République, je vois que, en tout cas, c'est l'échec total. Les enfants sont oubliés, les enfants sont laissés, les enfants sont abandonnés, en tout cas, dans d'une façon regrettable. C'est ce que moi je peux dire, qu'au lieu de parler des droits des enfants, d'abord on pourrait, et d'ailleurs vous nous avez déjà aidé, là où vous avez dit qu'il faut songer aux parents. C'est par là que moi je vais ajouter qu'il faut d'abord encadrer bien les parents de ces enfants-là. Puisque l'affection qui est entre les parents de ces enfants et entre ces bailleurs-là, ou bien ces agents qui se chargent de ces enfants-là, est différente. Ce sont les parents qui sont bien, bien vraiment affectés de toutes les souffrances de leurs enfants et ils peinent. Si ces parents-là sont bien encadrés, s'il vous plaît, les droits-là de ces enfants seront bien respectés par ces enfants-là.
D'accord.
Mais si les enfants sont intéressés par ces droits-là et les parents sont vraiment moins encadrés, vous verrez que
Il y aura toujours des problèmes. Merci Malonga. On va donner la parole à Joël Zakisa de Mahagi. Bonjour Joël.
Et bonjour. Et bonjour aussi à nos auditeurs et bonjour à tous les auditeurs de la radio. Ok, bien. J'ai un témoignage que je vais faire par rapport au sujet du jour. Vous savez, aujourd'hui, avec tous les invités, Mahagi a un problème sérieux du point de vue enfant. Parce que je pense bien tout le monde a connu ce que l'Ituri vient de vivre récemment. Donc il y a pas mal d'enfants qui sont en tout cas dans leur triste sort. Il y a des petites filles qui sont enceintes, voilà, il y a les petits garçons qui font de l'école. Donc, en tout cas, la situation des enfants par rapport à cet anniversaire, 30 ans, en tout cas, au niveau de l'Itourie, précisément, en tout cas, c'est là un chaos total. Les enfants donc, ne bénéficient rien et ils sont oubliés. Et chose grave et mal encore, quand et peut-être il y a des choses là qui sont données pour les enfants du Congo entier, on n'a jamais songé à des endroits. Et puis, on voit seulement les enfants de la ville de Kinshasa, de Lubumbashi, de Goma. Et ils ignorent qu'il y a aussi des enfants vers ces côtés qui devaient quand même bénéficier de cela. Donc, c'est une chose qui revient du côté des autorités. Là, les gens qui sont mieux placés en matière des enfants. Donc, eux voient plus les villes que de considérer les villages. Ok, dans les villages, il y a aussi des enfants intelligents. Alors, quand ils sont maintenant dans leur situation, ils n'auront pas moyen qu'ils étudient. Et après cela, ils seront des rebelles.
D'accord. D'accord. On a compris. Vous dites que les enfants qui sont dans nos différents, dans les villages sont plus abandonnés à leur triste sort, par rapport aux enfants qui sont dans les centres urbains. Jérémy Mwamba, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour, bien évidemment, à nos invités. En tout cas, 30 ans après, en ce qui concerne les droits de l'enfant ici, dans notre pays, monsieur Jody, disons-nous, vraiment les vérités en face. Les tableaux est totalement sombre. Ça, il faut vraiment les souligner avec les pics rouges. Pourquoi je dis ça, M. Jody? Regardez, vous savez que la République démocratique du Congo n'est pas seulement Kinshasa, voire Lubumbashi. Voyez un peu tout ce qui se passe autour dans chacune des provinces. Voyez un peu les tableaux qui représentent chaque province. En tout cas, vous pouvez avoir des larmes aux yeux. Voyez un peu.
Alors, Jérémy, vous êtes à Lubumbashi. Alors, dites-nous concrètement quels sont les problèmes auxquels les enfants du Katanga, par exemple, sont confrontés.
Merci, monsieur Jody. Quand nous regardons d'abord notre code, l'article 28 dit bien que l'enfant a droit à l'éducation.
Oui.
Et quelle éducation la meilleure possible? Voyons un peu aujourd'hui. Comment est-ce que l'éducation des enfants est prise en charge aujourd'hui? Peut-être les prouesses de notre chef de l'État pour ce qui concerne la gratuité de l'enseignement. Mais quand nous regardons vraiment dans chaque coin et recoin, vous trouvez que vraiment il y a des choses vraiment à redire. Il y a même des écoles ici à Lubumbashi. Et les enfants étudient même les soins. Et aux alentours même de la ville, c'est vraiment dommage. Quand nous regardons d'abord l'article 6, 32 et 33 de notre code, il est dit que l'enfant a droit à la protection. Regarde le jour d'aujourd'hui ici à Lubumbashi. Quand je quitte le travail pour aller rentrer chez moi, je vois les enfants quand vous passez sur les fenêtres de Lubumbashi. Il y a des enfants qui sont abandonnés, mais ils ont les parents. Je pense que l'État doit prendre des mesures qui s'imposent en concomitamment avec les ministères et en charge, je ne sais pas, la famille.
D'accord. Merci, Jérémy. Merci. D'accord, merci. On va accueillir Jonas Kabinda qui nous appelle de Kananga. Bonjour, Jonas.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à l'invité.
Rapidement, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux 30 ans de la Convention relative aux droits de l'enfant?
Oui, la première question que je vais poser à l'invité, les droits de l'enfant, ces droits-là, c'est c'est pour quelle tranche d'âge? Parce qu'on sait que l'enfant, c'est celui qui n'a pas encore atteint 18 ans ainsi de suite. C'est pour quelle tranche d'âge? Et comme mon professeur l'a dit, même ici au Kasaï Central, ces droits sont méconnus de beaucoup de parents. Il y a beaucoup d'enfants qui ne connaissent pas eux-mêmes leurs droits et beaucoup de parents ne connaissent pas non plus les droits des enfants. Je vais prendre l'exemple qui est connu de tout le monde, la situation qui avait plongé la province du Kasaï Central, le Grand Kasaï dans
l'affaire de
Kamuina Sabu, oui. La plupart de ceux que nous avions appelés aux trois miliciens, ce sont des enfants qui pouvaient être là, je dirais même de 6 ans jusqu'à justement déterminer l'âge. Alors, on n'a pas respecté les droits de l'enfant. Et puis, on ne sent pas qu'il y a des ONG qui accompagnent les droits des enfants. Et le pire souci que nous rencontrons ici, c'est que on on dirait que les droits des enfants ont été taillés seulement pour les enfants des autorités. C'est-à-dire les enfants dont les parents ont des moyens. Lorsque son, par exemple, cet enfant-là, quelqu'un a semblé marcher sur son droit, là, maintenant, les autorités vont montrer les griffes pour la présence, pour se battre sur la personne qui aurait violé les droits de l'enfant. Alors, c'est pourquoi j'avais peut-être souhaité, il n'aurait pas moyen d'accompagner, donc, de faire des propagandes, comme la radio Capi ne cesse d'accompagner le peuple congolais dans tous les domaines de la vie, de faire en sorte que les parents d'abord commencent à connaître les droits des enfants.
Merci Jonas. D'accord, merci. On va donner la parole à Kachai de Kanyoka. Bonjour Kachai.
Bonjour monsieur, je dis Daniel Kachama et bonjour aux invités.
On vous écoute.
Merci beaucoup, monsieur Jody. Acceptez que je commence par ces mots. Les droits de l'enfant sont abondamment proclamés, constamment violés, insuffisamment protégés. Monsieur Jody, ici en RDC, la Convention internationale de l'enfant a d'autres lois ici qui accompagnent l'application de cette convention-là. Nous avons la loi sur les violences sexuelles. Nous avons la loi protection des enfants, nous avons les codes de la famille. Mais vous allez constater que de tous ces tests légaux-là, les enfants ne sont pas surtout protégés. Il y a des enfants, la loi dit tous les enfants doivent avoir leur père et leur mère. Mais il y a des enfants qui vendent de l'eau, qui font de la pédicure, manucure, ils transportent des bassins d'eau en plein midi, en plein soleil, personne ne s'occupe d'eux. Vous allez trouver que sur le plan éducatif, il y a certains enfants qui sont abandonnés à leur triste sort. Ni c'était la présence de Tshisekedi à la tête du pays. Je ne sais pas si les enfants de Kanyoka, et généralement de toute la RDC, pouvaient aussi aller à l'école, même s'ils se mettent à même les sols, pour étudier gratuitement.
Voilà, Kachai, merci.
Gratuité pose encore un problème.
Voilà, même si ça pose encore problème, on retient qu'il y a encore beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Vous avez déploré le travail des enfants. En plein midi, vous voyez des enfants en train de travailler au lieu d'aller à l'école. Merci d'avoir appelé, monsieur. Je reviens à nos invités, monsieur Francien Tshibamba. Vous avez suivi les différentes préoccupations des auditeurs. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
La convention dont nous célébrons le 30e anniversaire de l'adoption est écrite sur la base d'un certain nombre de principes. Au nombre de ces principes, il y a le principe de non-discrimination. Donc, les amis qui se plaignent du fait que les enfants des villes sont pris en compte,
et les enfants
des milieux ruraux
sont abandonnés, oui.
Ils n'ont pas totalement tort. Effectivement, les chiffres que nous partageons sont des moyennes nationales. Ce sont des moyennes nationales. Il se peut qu'à certains endroits, la situation ne soit pas très reluisante. Donc, s'il y a des efforts à fournir, un peu comme pour compléter la réponse à la question que vous avez posée tout à l'heure, s'il y a des efforts à fournir, il faut orienter un peu plus d'efforts justement vers ces enfants qui sont défavorisés, qui sont dans les milieux ruraux, des villes régulées. Donc, comme ça, on peut effectivement dire que tous les enfants jouissent de leurs droits. Parce que c'est clair que au-delà de la non-discrimination, c'est l'esprit d'universalité. Et tous les enfants doivent jouir de tous les droits. Et donc, j'en viens à la question de notre ami qui dit « ce sont des droits pour les enfants de quel âge ?» Je lui dis « c'est tous les enfants. Toute personne de moins de 18 ans doit jouir de droits. Même le bébé dans le sein de sa mère, conformément à la convention, il doit être protégé et toutes les dispositions doivent être prises pour qu'il soit maintenu en vie. Donc il n'y a pas de tranche d'âge par rapport à cela. Ce que vous, dans la bande d'annonce de cette émission, il y a eu quelque chose d'important que j'ai retenu, c'est que pour mieux défendre ses droits, il faut les connaître. Les personnes qui ont parlé de maltraitance des enfants doivent savoir que la loi punit toutes les personnes qui maltraitent les enfants. Il faut lire la loi et essayer de s'orienter vers les instances habilitées pour pouvoir remettre les enfants dans leurs droits. La loi, elle est claire sur beaucoup de sujets. Notamment, le travail des enfants, il est prohibé. Donc, c'est à la suite.
Même leurs propres parents n'ont pas les droits de faire travailler les enfants.
Non.
Pour souvenir aux besoins de la famille.
Les conditions de travail des enfants sont clairement définies. Avant 16 ans, aucun enfant ne doit travailler. Aider les parents, c'est différent de faire un travail où on sent qu'il y a de l'exploitation. La plupart des enfants qui vendent de l'eau sur la rue, c'est pas pour eux, hein.
C'est pour d'autres personnes.
Les ressources sont pour d'autres personnes, donc c'est une exploitation de la personne. Et ça, c'est interdit par la loi. Et donc, en dessous de 16 ans, vous ne pouvez pas travailler. Et même à 16 ans, ou si vous faites un travail, il y a des conditions qui encadrent ce travail-là. Un enfant ne peut pas faire un travail de nuit. Un enfant ne peut pas se retrouver dans les mines. Et donc, tous les travaux qui peuvent occasionner un risque pour la survie de l'enfant ou pour son développement intégral, se sont prohibés. Ils ne peuvent pas, ils peuvent pas l'exercer même après 16 ans. Donc ça, ce sont les conséquences de l'adaptation de notre législation à la, après l'adoption de la convention relative aux droits de l'enfant. Donc moi, je demande, et j'ai entendu quelqu'un dire qu'il n'y a pas beaucoup d'organisations de la société civile qui travaillent pour les droits. C'est clair, effectivement, que le travail est abondant et il n'y a pas beaucoup d'intervenants.
Oui.
Il y a quelques personnes qui travaillent, mais bon, si des initiatives peuvent partir de l'intérieur, je crois que ça ne pourrait qu'aider à très vite amener la majorité des enfants à jouer de leurs droits.
Bien, je reviens à vous tout à l'heure, le temps d'accorder la parole à Béli Loussala, une jeune reporter à Kinshasa. Béli, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes jeune reporter, vous avez eu certainement à faire des reportages par rapport à la situation des enfants. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous avez découvert dans vos reportages?
Oui, la situation de l'enfant n'est pas toujours au mieux, mais on essaye de faire de notre mieux à travers des plaidoyers pour booster un peu afin d'améliorer la situation des droits de l'enfant.
Voilà, quels sont les grands défis qui restent à relever?
Les grands défis qui restent à relever à ce jour seraient de voir tous les droits des enfants dans leur intégralité être respectés et que la totalité des enfants, l'ensemble des enfants de la RDC jouissent de leurs droits comme il se doit. Parce que là, j'ai entendu les autres auditeurs qui se plaignent que dans des endroits reculés, les enfants ne jouissent pas intégralement de leurs droits. Alors ça, c'est notre travail d'amener les décideurs à prendre cela en considération afin qu'aucun enfant de la RDC ne soit laissé pour compte.
En tant que jeune reporter, qu'est-ce que vous faites au quotidien par rapport aux enfants?
Au quotidien, j'aimerais signaler qu'en plus d'être jeune reporter, je suis aussi encadreur au sein du RIP toujours. Et nous accompagnons les enfants, nous leur accompagnons dans l'exercice de leurs droits, beaucoup plus le droit à la participation. Et aussi lors des plaidoyers qu'ils mènent, mais encore et surtout nous formons les enfants sur leurs droits, parce que comme vous le dites aussi dans votre bande annonce, on ne peut mieux défendre ses droits que si on les connaît. La majorité des enfants aujourd'hui dont les droits sont violés, c'est parce qu'ils ne le connaissent pas et de ce fait ils ne savent pas les défendre. Voilà pourquoi nous militons sur la promotion des droits des enfants, que les enfants sachent qu'ils ont des droits et qu'ils doivent être respectés. Et je pense que de cette manière-là seulement que les droits de l'enfant pourront être respectés.
Bien, merci Béli Loussa, la jeune reporter. Je reviens à vous, Joël Kibouchi, vous êtes encadreur des enfants au RIP. Quelqu'un a dit tout à l'heure de Ngandambo, Malonga, il dit les enfants sont abandonnés à leur triste sort, c'est parce que les parents aussi sont pauvres, ils n'ont pas de moyens. Il faut d'abord commencer par encadrer les parents et à leur tour, ils vont s'occuper de leurs enfants. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Monsieur Malonga?
Ok, je lui dirais que les parents, le gouvernement de son côté, a mis en place comme stratégie la planification familiale. Ce que les parents ne respectent pas. Ils mettent au monde des enfants et n'ont pas le temps de les prendre en charge. Alors déjà, pour
que ces enfants... Ils n'ont pas le temps ni les moyens.
Voilà. Alors déjà, pour ne pas se retrouver dans cette situation, il faudrait que chaque parent prenne en compte cela. Voient la possibilité de ces moyens afin d'avoir des enfants pour lui permettre de les prendre en charge. Ses parents doivent, comme l'a dit, recevoir l'information. Donc cette faute est partagée. C'est pas seulement la faute du gouvernement ou des décideurs qui laissent ses enfants à triste sort, mais c'est également la faute de ses parents. Et comme défi qui reste, je dirais que pour les années qui viennent, les parents et le gouvernement doivent travailler ensemble pour que ces enfants ne soient plus laissés à leur triste sort.
Oui, monsieur Poncière.
Oui, je voudrais dire que il est vrai que les parents doivent avoir un bon salaire, mais il faut aussi savoir qu'aucun enfant ne demande d'avenir au monde. ce sont les parents qui ont décidé de le mettre au monde. Mmh. Et pour cela, moi, je pense que chaque parent doit se mettre en tête qu'il garde une dette résiduelle vis-à-vis des enfants. Même si même ceux qui forment correctement leurs enfants, ils garderont toujours des dettes vis-à-vis des enfants. Parce que c'est vous qui avez demandé qu'ils viennent au monde. C'est pas eux qui vous ont demandé de venir au monde. Et donc, vous ne pouvez pas faire appel à des personnes qui arrivent au monde et vous commencez à chercher d'autres responsables pour protéger ces enfants, les faire grandir normalement. Donc, en décidant de mettre au monde, donc vous vous sentez capable de prendre en charge cet enfant sur tous les plans. Et non, vous commencez à expliquer que vous n'avez pas de moyens, qu'on doit vous donner les moyens.
Sinon, mais surtout ces phénomènes d'enfants disséqués. Il y a pas mal, beaucoup d'enfants qui sont dans la rue aujourd'hui, abandonnés à leur triste sort. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça?
Justement, c'est ce que je disais, la maltraitance. La loi punit tous ceux qui ils sont négligents vis-à-vis de leurs enfants. C'est écrit noir sur blanc dans la loi. Ils doivent être sanctionnés. Les gens doivent connaître ça. Et, comme on disait, plusieurs personnes ignorent cela. Et donc, il faut que la plupart des enfants, là, quand vous menez des enquêtes sociales, vous vous retrouvez que ce sont des enfants qui ont des familles. Et les familles n'habitent pas loin de là où ils sont dans la rue. Okay. Donc, il y a moyen de faire des enquêtes sociales et de retrouver les familles et au besoin de les sanctionner s'il le faut.
Et de ramener les enfants dans leur famille.
Si ce sont des familles responsables, on peut désigner des familles d'accueil. Parce que bon, quand vous ramenez un enfant dans sa famille d'origine, sa famille biologique, il se peut qu'il retombe dans ces travers-là. Parce que les raisons qui ont fait qu'il soit allé dans la rue peuvent toujours renaître.
On peut l'avoir accusé des sorciers, par exemple, des sorcelleries, voilà.
Voilà. Donc, on applique la loi sur tous les plans. S'il a été accusé de sorcellerie, les personnes qui ont accusé l'enfant de sorcellerie sont passibles de peine d'emprisonnement et d'amende. C'est connu, c'est noté par la loi et c'est clair. Donc, qu'on ne cherche pas des faux fouillés en disant il faut qu'on attende du gouvernement. Quand vous mettez un enfant au monde, vous devez assumer vos responsabilités. Et ça, c'est clair.
Ça, c'est clair. Carmel Ndomba, qu'est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ce qui est dit?
Tout d'abord, j'aimerais revenir sur ce qu'avait dit un des intervenants par rapport au fait que les enfants
des provinces, du micro, voilà.
Par rapport au fait que les enfants en province ne bénéficiaient pas des droits. Droits de l'enfant comme ceux qui sont à Kinshasa ou dans les grandes villes de la RDC.
Oui.
J'aimerais relever le fait qu'il a raison, il y a quand même des fortes inégalités. Comme le disait le cordon tout à l'heure, ce sont des moyennes nationales. C'est vrai qu'en fonction des provinces, les chiffres peuvent varier. Il y a de très grands écarts. Mais les buts, c'est de faire en sorte que tous les enfants partout en RDC jouissent de leurs droits et pour cela il faut des actions un peu plus équitables dans le sens de privilégier ceux qui sont un peu plus dans le besoin. À part ça, j'ai aimé quand même la phrase de Monsieur Kachay,
Kanyoka,
qui disait les droits il y a bon quelque chose du genre les droits de l'enfant sont connus mais très peu respectés. J'ai pas retenu complètement la phrase mais elle sonnait quand même assez bien.
Oui,
je trouve qu'il a raison. C'est vrai qu'il y a beaucoup de textes légaux, de très beaux textes en RDC sur les droits de l'enfant, la loi portant protection de l'enfant, le code de la famille, et tout ça, ce sont des beaux textes, mais ils posent encore un problème dans l'application de ces textes-là. Mmh. Je crois qu'en tant qu'encadreur, nous accompagnons les enfants pour mener des plaidoyers dans le sens d'améliorer la situation afin que tous les droits reconnus à l'enfant dans les différents textes juridiques soient effectivement à
l'application. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux enfants soldats, les enfants qui se retrouvent dans les groupes armés?
Actuellement, je crois, à moins que je me trompe, il n'y a plus d'enfants dans les forces armées de la RDC, mais il y a quand même encore des enfants dans les groupes armés, je crois. Et pour ça, je crois que c'est une situation déplorable. Ce sont des enfants en situation spéciale qui nécessitent une protection spéciale pour ces enfants-là. Et le but, ce serait de ne plus avoir d'enfants dans les forces des groupes armés parce que ça ruine leur avenir. Ces enfants ne peuvent plus étudier. Et même lorsqu'ils sont réinsérés dans la société, il y a encore ce regard un peu méfiant de la société vis-à-vis de ces enfants-là, compte tenu de leur passé. Et donc, pour nous, c'est un travail, une lutte que nous menons pour qu'il n'y ait plus d'enfants et que ces enfants soient acceptés une fois réinsérés dans la société.
Richard, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Monsieur Jody Daniel, aussi aux invités.
Quelle est votre préoccupation, Richard?
Merci. Le sujet est crucial, je l'ai suivi. Mais acceptez que je dise ceci. Ici, à Kananga, les enfants sont confrontés aux multiples défis sur le plan alimentaire, sur le plan éducationnel, et que sais-je encore, même sur le plan de sécurité. Monsieur Jody, ici, le méga de maïs revient à 6 000 francs congolais. Une famille de 7 enfants était parti laisser les enfants chez une autorité qui estimait qu'il avait quand même des possibilités pour nourrir les enfants là. Et c'était en absence de papa, la maman était partie. Quand le papa est venu le soir, deux jours après, il n'a pas trouvé les enfants à la maison. Il essaie de poser la question. Alors la maman lui dit, toi tu es irresponsable, on ne sait pas vivre avec la hausse de prix de maïs. Je suis allé laisser les enfants quelque part chez quelqu'un qui peut les prendre en charge. Alors le papa a chassé la maman, il a dit que non, ça, tu as commis l'adultère avec cette autorité-là, comment tu peux prendre mes enfants et tu vas lui donner pour qu'il, que lui-même puisse les prendre en mariage.
Donc, en charge, oui.
Alors vous comprenez que c'est une difficulté. Et aussi après ça, monsieur Jody, vous savez, ici... en dehors des ministres, qui s'occupent des enfants surtout. Mais je ne vois pas la présence de la RDC, du gouvernement congolais, par rapport à la prise en charge des enfants. Vous avez suivi que le budget consacré à la santé est minime, alors que les enfants sont frappés de malnutrition, coiffure, corps, marasme, et ils passent la vie bon, au trépas. Parfois, ici, les gens disent que « Banabaji Bakolene le peuple est loinzante ». Bon, on ne peut pas comprendre tout ça, c'est quoi. C'est pourquoi je voulais demander aux invités, avec cet anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant,
oui,
s'ils peuvent faire un plaidoyer afin que le gouvernement congolais commence à s'intéresser aux problèmes des enfants et surtout résoudre les problèmes alimentaire. La relance de l'agriculture, c'est un élément très important qui
d'accord
peut permettre aux enfants
d'accord
d'étudier et de vivre sans que les parcours ne soient parsemés d'embûches.
Merci Richard. Ingénieur Serge King, vous êtes à Kindu, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste et bonjour une fois de plus à nos invités.
Rapidement, quelle est votre préoccupation?
Oui, je dis, j'aimerais que tu puisses me répondre. Est-ce qu'il y a des couloirs dans les Maïdob au niveau de Kinshasa là-bas?
Les Kouluna et les Maïbobo. Alors, ça veut dire, vous voulez dire qu'à Kindu, il y a aussi les Kouluna et les Maïbobo ou les Chegui?
Il y en a énormément, il y en a beaucoup. La base de là, je pense que c'est à Goma où il y a leur base. Mais j'aimerais un peu dire à nos invités, vous voyez, la RDC est tellement grand. En tout cas, notre pays est tellement grand, vous laisse dire. Bon, face à ça, l'irresponsabilité est à la base de beaucoup de choses. Tant que l'irresponsabilité bat record, je pense que pour trouver une suite favorable, pour en fait d'éviter les Kouluna et les Maïbobo, c'est difficile. Alors, j'aimerais vous donner un peu des témoignages. J'ai été quelque part au village. Je vous assure, ici, dans les centres urbains, les gens étudient convenablement par rapport à la gratuité. Un jour, je me promenais au village, j'ai trouvé un enseignant qui se permet de libérer les enfants très tôt, en train de pouvoir aller chercher des gains à manger au niveau du champ. Tout en sachant qu'il n'aura la gratuité là, comment je peux me mettre pour que il fallait me débrouiller d'abord d'abandonner ces enfants. Une éducation, en tout cas, ces enfants sont abandonnés. Alors, deuxième préoccupation, j'ai trouvé un papa qui est en train de dire à sa fille, comme bien que la fille avait l'âge avancé, il dit, toi, tu as déjà l'âge d'être marié, ta mère, je l'avais mariée à l'âge que toi, tu as là. Maintenant, la fille est venue nous voir un peu.
La fille avec quel âge?
Bon, elle avait au moins 19, 18 ans comme ça. La fille est venue nous voir et demander. En tout cas, moi, je n'aime pas ce que mon papa m'a toujours dit. Est-ce qu'il n'y a pas le droit de pouvoir se plaindre? Moi, je l'avais donné ma réponse. Mais j'aimerais que vous puissiez me donner un peu la réponse si je l'avais donné une bonne réponse.
D'accord, merci. Merci, ingénieur Serge. On va accueillir Deo Gracias et Raphaël. Deo Gracias et Kananga et Raphaël de Kindu. Deo Gracias, bonjour.
Bonjour, messieurs, je dis bonjour aussi à tous nos invités.
Alors, soyez bref, on n'a plus beaucoup de temps. Allez-y, droit au but. Quelle est votre question?
Droit au but, je dis ceci que les invités viennent nous faire un peu un bilan pour nous dire que ça a dépassé des années 80 à 58% jusqu'à 78% vers les années 2000. Mais je me demande sur base de quels indicatifs, ou soit d'indications, ou sur base de quelles statistiques normalement? Parce que nous constatons que au village il y a une pénurie totale. Les enfants sont, n'est-ce pas, orientés dans des travaux forcés. Un exemple, je suis allé aux carrières, j'ai trouvé les enfants, n'est-ce pas, qui transportent des caillasses, des briques, tout ça, mais aussi longtemps que, n'est-ce pas, les zones G sont là et chaque jour, ils vous donnent seulement les statistiques. Moi, je me dis que non, quand même, comme quand on est leader d'opinion, n'est-ce pas, on doit quand même aussi donner les statistiques normales.
D'accord, merci Déogratias, on a compris.
Normales.
Merci Déogratias, on va donner la parole à Raphaël Oupelele de Kindou. Raphaël, bonjour, soyez bref aussi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre préoccupation, Raphaël?
Non, je voulais juste dire que depuis 30 ans, de la Convention relative aux droits de l'enfant, il y a quand même une avancée notable, surtout dans les cadres juridiques. Vous savez, notre pays avait ratifié beaucoup de conventions, beaucoup de traités relatifs aux droits de l'enfant. Il a même légiféré en matière de l'enfant, la loi portant protection de l'enfant, qui a pris en compte les préoccupations de tout l'arsenal juridique international et régional.
D'accord.
C'est une avancée notable, c'est vrai. Il ne reste que l'application et les mesures d'application qui doivent être mises en place. Et aussi, ces textes-là doivent être vulgarisés, connus, sensibiliser la population, tout ça. Ce n'est qu'après qu'on va vivre les retombées.
Merci.
De cette réforme.
Merci Raphaël. Merci Raphaël. Joël Kibouchi. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces auditeurs? Elle n'a pas suivi, Carmel, vous avez suivi les différentes préoccupations. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs?
Par rapport à la préoccupation de M. Richard, je crois, de Kananga, qui nous demandait de mener un plaidoyer à l'occasion des 30 ans de la CDE pour améliorer les questions de l'agriculture, de malnutrition. Je crois que il est
prévu... Surtout là-bas, les maïs coûtent maintenant très cher.
Je crois qu'en tant qu'encadreur, nous allons accompagner les enfants reporters, les enfants membres du comité dans les plaidoyers. Je crois que dès demain, le 20 novembre, les enfants vont mener un plaidoyer dans ce sens, notamment. Il y a également une préoccupation de M. Serge de Kindou qui voudrait qu'on lui donne une réponse par rapport... à une fille de 19 ans, 18 ans qui voudrait...
Dans le père voudrait
l'envoyer au mariage.
Oui.
D'abord, il faut savoir que les mariages d'enfants sont interdits en RDC. Et je rappelle qu'un enfant, c'est toute personne âgée de moins de 18 ans. Alors, lorsqu'une fille a 19 ans ou 18 ans révolue, je crois qu'elle est légalement, elle est en droit de se marier. Mais de force, je ne crois pas. Mmh. Mais elle est légalement en droit de se marier. Alors, il y a M. Déogratias également qui... discuter par rapport aux chiffres qui ne correspondent pas avec la réalité qu'il constate sur terrain.
Oui.
J'aimerais juste rappeler que ce sont des moyennes, donc il faut le prendre avec beaucoup de pincettes. C'est vrai que la situation qu'observe le monsieur dans sa communauté ne reflète pas forcément la moyenne nationale.
Oui.
C'est vrai qu'il y a des situations qui sont déplorables dans sa communauté, mais il faut quand même savoir que ces chiffres qu'on donne, ils proviennent des rapports sur les OMD,
d'accord,
qui sont les objectifs du millénaire pour le développement.
Merci Carmel. Joël, votre dernier mot, avant de donner la parole à M. Poncier.
Exactement, ce que Carmel vient de dire, c'est que nous allons mener des plaidoyers d'ici demain déjà pour que la représentativité de cette moyenne puisse augmenter. Comme ça, dans le prochain rapport, nous verrons que non seulement que les chiffres vont augmenter, mais que cette représentativité pour chaque province également sera augmentée. Et comme ça, nous n'observerons plus d'inégalités concernant le respect des droits des enfants dans les provinces.
Monsieur Poncien.
Oui, plaidoyer au niveau national, oui, mais au niveau local, il faut également qu'il y ait des enfants qui soient accompagnés pour mener le plaidoyer. À Kananga, il y a des enfants reporters, il y a des comités d'enfants, je l'ai cité tout à l'heure, et donc
j'encourage... Il y a de plus en plus des comités d'enfants.
Voilà, j'encourage les encadreurs de Kananga à accompagner les enfants dans le plaidoyer, parce que les enfants de ce coin-là sont mieux à même de maîtriser les problèmes de ce coin et de faire des propositions de solutions aux autorités. Mais cela ne nous donne pas au niveau national de mener également un plaidoyer. Kananga, il y a un comité, Mbandaka, Lubumbashi, Goma, Bukavu, il y a des enfants.
Qu'est-ce qu'il faut pour étendre ces comités un peu partout? Il faut des moyens, c'est ça?
Il faut des moyens, il faut que le gouvernement, absolument, il faut que le gouvernement accepte de mettre dans les lignes budgétaires des ressources pour le fonctionnement de ces structures.
Donc, est-ce que vous travaillez en collaboration avec le ministère du genre familial?
Absolument, c'est-à-dire c'est le ministère qui a reçu mandat de travailler à la promotion des droits de l'enfant.
Mmh.
Et donc c'est à ce titre-là que nous travaillons avec le ministère, nous appuyons au niveau à différents niveaux pour que les droits de l'enfant soient connus de tous et qu'ils soient respectés. Donc nous travaillons avec le ministère du genre à cette promotion des droits de l'enfant. Et donc les différents plaidoyers qui sont menés, nous avons l'appui du ministère. et qui accompagnent les enfants dans...
Monsieur Pensien, comment est-ce que les enfants peuvent aussi être affectés par les changements climatiques?
Le changement climatique, il est clair qu'ils sont affectés dans la mesure où, tout à l'heure, vous avez entendu parler la question de maïs,
de l'alimentation. La pénurie de maïs.
Voilà, donc lorsqu'il y a changement climatique, ça veut dire que ça perturbe les cultures. Et donc, il faut absolument que les enfants soient mobilisés, soient sensibilisés pour se comporter comme il se doit vis-à-vis de la société. La question des emballages biodégradables est une question importante. Il faut que dès la tendre enfance, que les enfants sachent comment consommer, comment utiliser les déchets. Et donc, il faut qu'on les prépare à tout ça. C'est des questions peut-être qui ne sont pas encore visibles dans notre société. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais progressivement, ça nous rattrape. Et si les gens observent très bien, ils vont voir qu'il y a des décalages en termes de la durée des saisons. Il y a quelques 20-30 ans, les saisons étaient calculées sur 2 mois ou sur 8 mois. Mais maintenant, on sent qu'il y a des changements. On a des fortes intempéries régulièrement, ce qui n'était pas le cas il y a de cela quelques temps. Et donc, progressivement, il faut que ces questions soient introduites.
D'accord.
Pour que les enfants s'approprient la question et qu'ils puissent... Cette planète, elle va rester la leur.
Mmh.
Quelqu'un disait, la Terre, on ne l'a pas héritée. On a plutôt emprunté à ceux qui arrivent. Donc ceux qui arrivent, ce sont les enfants. C'est à eux qu'on a emprunté cette terre et donc on doit pouvoir la laisser comme il se doit.
Mmh.
Et pour qu'ils puissent vivre convenablement sur cette terre.
Bien, merci Monsieur Poncien Chibamba, merci Carmel Ndomba et merci Joël Kibouchi et merci Abeli Loussala. Je rappelle que vous êtes tous encadreurs des enfants au sein du réseau des encadreurs pour l'initiation à la participation des enfants. À la prochaine.
Merci.